Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Rebonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes restés bien installés confortablement dans votre siège ou si vous êtes sur la route, faites attention à la route, hein, mais en tout cas, on rappelle le score, hein, la France qui se sont imposés 3-0 face aux Suédois. Avec nous, Guy autour de la table, comment ça va Guy?
Très bien, parfait.
T'avais annoncé que la France allait gagner?
Oui, mais j'avais dit 2-0, mais enfin bon.
Oui, tu as joué un peu petit bras, comme Théo a joué gros bras, mais c'était juste le milieu entre les deux.
Tout à fait. Ce qu'il faut noter, c'est que la France a marqué 13 buts depuis le début de la compétition. Ouais. 13 buts d'attaquants.
Ouais.
Tous les attaquants ont marqué.
Tous les attaquants ont marqué, ont participé à cette fête. Et c'est bien de le rappeler, hein, parce que 13 buts, c'est pas toutes les équipes qui ont marqué autant de buts. Hein. On pense à l'Allemagne qui était pas très loin aussi de ces 13 buts-là, mais qui sont sortis hier soir. Et on n'aura pas en huitième de finale ce fameux classique un peu entre l'Allemagne et la France. Stéphane, comment ça va?
Bonsoir Eladj, bonsoir à tous. Bah, ça va très très bien.
T'as bien vécu cette rencontre, je suppose, hein?
Ah oui, franchement, j'ai pris un pied monstrueux, que ce soit devant ma télé ou même en votre compagnie directement. Non, franchement, c'était vraiment, vraiment une très, très belle soirée.
On espère que t'as pris un peu plus de plaisir quand même avec nous.
Hein. Ah bah oui, évidemment.
voilà. Avec nous, Olivier, comment ça va, Olivier?
Ça va très bien. Après une soirée comme ça...
Ça ne peut caler.
Ça ne peut caler.
3-0, tout simplement, magistral. Hein. Kylian Mbappé qui a été en taille patron.
Incroyable, incroyable, comme je disais à l'avant-match, c'est-à-dire qu'on a une force incroyable en équipe de France, c'est que même s'il y a un coup de moins bien du côté de Dembélé, c'est Mbappé qui prend le relais. Si Mbappé a un petit coup de moins bien, hop, Dembélé triplé. Olise, bon, effectivement, on voit qu'il a envie de mettre son petit but, mais bon, on va pas lui en vouloir, il est au moins à 4 ou 5 passes décisives. Non, c'est un régal de les voir jouer, il se trouve... dans les intervalles, les appels de balles devant, c'est propre, c'est beau, il y a du jeu, c'est fluide. Non, honnêtement, on a rien à envier aux autres équipes.
Hein. On n'a rien à envier aux autres équipes. En tout cas, les autres équipes sont prévenues. Hein, l'équipe de France est bien au rendez-vous de cette compétition. Abou, tu as pu assister aussi, en tout cas, au doublé de Kylian Mbappé et au but de Bradley Barcola, hein, et notamment les deux passes décisives de Michael Olise et une passe de Ousmane Dembélé. C'est le quattro en attaque qui ont fait feu, tout simplement, à la défense suédoise qui n'ont rien eu à manger aujourd'hui.
Ouais, c'est là. Je pense que la France n'a jamais eu une ligne d'attaque de ce niveau-là. Je suis même pas sûr que beaucoup d'équipes à travers l'histoire du football en sélection nationale aient une ligne d'attaque de ce niveau-là. Et il faut rendre hommage à Mbappé, c'est incroyable ce qu'il fait, il fait lever tout le monde. Moi j'ai regardé la première mi-temps chez ma mère et elle le voit, elle m'a dit mais le numéro 10 il est infatigable. Elle a célébré le but de Mbappé, le but qu'il met dans la surface de réparation. Enfin le gars fait lever tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment pas le foot, ceux qui comprennent quelque chose, ceux qui comprennent rien. C'est une chance de l'avoir en équipe de France et faut qu'on s'en rende compte. On n'aura pas de joueurs comme Mbappé avant très très longtemps.
En tout cas, on va apprécier hein, notamment ce joueur qui est tout simplement à la hauteur des grandes rencontres et qui est à la hauteur encore cette fois-ci en 16e de finale. Hein, la France qui iront défier le Paraguay. Bon, on va passer rapidement au prochain match, hein, parce que il y a pas grand-chose à dire. Hein. C'était très difficile pour Gyökeres et Alexander Isak aujourd'hui, Stéphane.
Oui, c'était très difficile. Ils ont été littéralement muselés par l'axe défensif Upamecano et Saliba. Clairement, on les a pas vus, hein, parce que vraiment le plus actif, c'était pas le plus connu des trois. C'était Otolien Elanga. C'était vraiment lui qui était le plus actif, le plus dangereux. Et même lui, il a été contenu avec brio par Lucas Digne. Donc non, franchement, l'équipe de France a fait un excellent travail collectif. Il n'y a pas un seul joueur qui a été, à mon sens, en dessous, puisque dans les récupérations de balles, ça allait très très vite. Ça, les phases de transition vers les attaquants allaient extrêmement vite aussi. Et puis, dès qu'il y avait une perte de balle, c'était récupéré aussi rapidement. Vraiment, ils ont étouffé littéralement les Suédois au fur et à mesure. Ça a duré 20 minutes où vraiment le combat était à mano à mano. Puis après, ça a déroulé complet pour les Bleus.
Tout simplement, on sentait que ce verrou allait exploser juste avant la mi-temps. On en discutait avec Olivier. Hein. On disait que la France est sur le bon chemin, en tout cas de trouver tout simplement le chemin défilé. Et ils ont trouvé le chemin défilé.
C'est ça. Dans ce genre de match, le plus dur, c'est d'ouvrir le score. Après, quand tu ouvres le score, c'est plus facile. Tu trouves tes automatismes, tu fais courir le ballon, tu fais courir l'adversaire, tu fatigues ton adversaire. Et nous, on a les joueurs, on a devant, derrière, milieu, ça court tout le temps, ça bouge.
Le banc est stratosphérique.
C'est ça, et chaque porteur de ballon a toujours une solution autour de lui. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui donne la solution, qui prend l'intervalle, qui prend les... Non, c'est honnêtement, et puis on les a asphyxiés. C'était une sorte de rouleau compresseur, en fait.
Exactement, c'était une sorte de rouleau compresseur. Hein. On a pu voir le duo qu'on surnomme magique entre Ousmane Dembélé et Olise et Kylian Mbappé. Pardon. Ils ont à peine, c'est leur première compétition, leur grande compétition à deux. Et là, on voit toutes les différences qu'ils font, comment ils réussissent à combiner. C'est tout simplement formidable et de bon augure pour les prochaines années. Et on a même envie, peut-être, pour certains en tout cas, de les retrouver en club, les deux.
Pourquoi pas?
Possiblement, en tout cas.
Pourquoi? Non, mais comme je disais aussi, c'est par rapport aux grosses nations de cette Coupe du Monde. Messi, je ne vais pas vous faire un dessin, tout tourne autour de Messi pour l'Argentine. Chez les Anglais, c'est Harry Kane. En fait, chaque grosse nation a un gros buteur. Cristiano Ronaldo, Yamal. Chez nous, on a cette chance incroyable, c'est qu'on n'en a pas un, on n'en a pas deux, on en a voire trois. J'ai presque envie de dire les trois fantastiques devant. Oui. Et à tout moment, ils peuvent te débloquer la situation, à tout moment. Sur un déhanché, sur une accélération, sur un le crochet qui va faire la différence. Et c'est une force incroyable pour notre équipe. C'est que trois fantastiques devant, mais tout le monde voudrait les avoir, quoi.
Exactement, hein, tout le monde voudrait les avoir. Mais on a la chance d'être français et de les avoir. Pour le prochain match face au Paraguay, Guy, est-ce que tu penses que ça sera un match bis repetita ou est-ce que t'as peur que le Paraguay tende un piège ou une embuscade ?
J'ai pas spécialement peur du Paraguay. C'est une équipe qui joue un petit peu au mode hérisson. Ils vont se mettre derrière. Ils vont essayer d'être très rugueux en défense et après essayer d'attaquer, de contre-attaquer. C'est un peu le jeu du Paraguay. Faut pas oublier qu'en 98, Laurent Blanc marque le but à la toute dernière minute, le fameux but en or.
Oui.
Et nous avait bien embêtés. Bon, ce qu'ils ont fait contre les Allemands, c'est quand même pas du hasard, quoi.
Oui, c'est pas du hasard. Après, ça a manqué un peu d'efficacité quand même
sur le plan technique. Je plante des individualités. Il n'y a pas photo. Théoriquement, on ne doit pas avoir peur du Paraguay.
Oui. Voilà. Mais comme on sait que c'est une équipe qui va jouer bloc bas et très dur dans les duels, hein, il faut s'en méfier quand même.
Tout à fait.
Abou, je me retourne vers toi. Hein. Je viens de voir Lamine Yamal qui a fait une déclaration un peu pimentée. Hein, avant, on est loin encore de ces demi-finales. Hein, eux qui vont jouer face à l'Autriche, hein, mais ça n'est toujours pas arrivé. On est encore loin de cette demi-finale. Mais Lamine Yamal qui a dit que la France n'est pas meilleure que l'Espagne. Ils ne nous ont pas battus. Ils ne peuvent pas être meilleurs. La Coupe du Monde commence maintenant. Il n'y a aucune équipe favorite. Est-ce que tu partages?
Mais j'ai hâte de le rencontrer. Enfin, moi, même vous, je vous trouve petit bras. Le Paraguay peut nous embêter, mais de quoi le Paraguay? Moi, je suis même frustré qu'on joue le Paraguay. Ramenez-nous une vraie équipe de football, qu'on se mesure à des vrais gens et qu'on leur montre de quoi on est capable. Et à un moment donné, cette équipe, elle est juste au-dessus de tout et de tout le monde. Et l'Espagne, j'ai hâte de les rencontrer aussi parce que le début de compétition de l'Espagne, c'est pas trop ça. Et j'ai hâte de leur montrer ce que la France peut leur faire. Alors, moi, Yamal, il peut dire ce qu'il veut. Il est habitué des déclarations. déclarations un peu trash comme ça, c'est ce qui fait le charme du football aussi. Il avait le même sort de déclaration au moment où le Ballon d'Or se jouait, où il disait bah, si le Ballon d'Or doit se jouer sur un match, allons-y, il se jouera sur un match. Et malheureusement pour les Français à cette époque-là, c'est l'Espagne qui l'avait emporté, même si le Ballon d'Or était venu, était à la maison d'ailleurs. C'est Ousmane Dembélé qui l'a. Mais ouais, moi je suis même frustré qu'on joue le Paraguay au prochain tour. Je pense qu'on fera le boulot assez facilement. Et j'ai hâte qu'on joue une vraie équipe. Et ce sera peut-être en quart de finale avec le Maroc. Et encore, allons en demi-finale directement, que ce soit l'Espagne ou qui vous voulez.
Ça y est, on l'arrête plus.
On va faire ça bien, tranquillement. Et en finale, ce sera peut-être un peu plus étrié. Et même là, on gagnera. Moi, j'ai aucune inquiétude sur cette équipe de France. Et il faut le voir. Là, on le voit d'ailleurs. Désolé, on le voit à la télé. Mbappé qui célèbre son premier but en allant voir Deschamps. Ouais. Enfin, il y a une force collective. Enfin, c'est pas que sur le terrain, c'est pas juste ils sont forts. Le groupe est soudé. Il y a un drame familial aussi qui touche Didier Deschamps, qui soude encore plus ce groupe. Et c'est sa dernière à lui aussi en tant que sélectionneur. Et même lui arrivant en demi-finale pour Didier Deschamps, ça fait le sélectionneur le plus sélectionné qui a fait le plus de matchs dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais en fait, il y a les gars, il y a un moment donné.
Faut respecter l'idée, quoi.
On va aller la prendre, cette troisième étoile. Hein. J'en ai bien peur pour les autres.
En tout cas, c'est tout le monde qu'on peut souhaiter.
D'après toi, les planètes sont alignées.
Ouais, il y a tout. Ouais, voilà. Vraiment, il y a tout qui. Il n'y a rien qui peut nous arrêter.
Quant à l'Espagne, j'ai pas été du tout enthousiasmé par leur jeu. Hein.
Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Déjà, le 0-0 contre le Cap-Vert, pour moi, c'est un accident industriel, même si on peut saluer le côté très solidaire des Cap-Verdiens sur ce match-là, mais quand on est une nation comme l'Espagne, c'est un accident industriel. Ils doivent absolument gagner ce match. Ils se sont repris avec, je crois, c'était 5-0, hein, le résultat qu'ils ont fait. 4-0. Mais même malgré ça... Il n'y a pas ce sentiment de toute puissance comme on l'a vu avec la France, comme on l'a vu avec l'Argentine aussi, même si le groupe des Argentins était un peu plus facile. Mais c'est vrai que l'Espagne à ce niveau-là, c'est pas l'Espagne qu'on a vue étincelante, foudroyante à l'Euro 2024. On en est très très loin. Et pourquoi pas, hein, s'il y a une petite confrontation face à l'Espagne.
Il n'y aura pas de confrontation face à l'Espagne.
Oui,
cette équipe sortira contre le Portugal. Cette équipe sortira contre le Portugal, mais c'est bien que Yamal fasse des petites déclarations. Ça alimente l'émission, mais cette équipe sortira contre le Portugal.
Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'Yamal se prononce, il y a toujours un retour de karma qui retombe sur sa tête. Il apprend pas, le petit jeune, que ce soit avec le Barça ou avec l'Espagne. Il a toujours eu le karma du football qui lui est retombé sur la tête. Donc on va voir pour la suite de la compète ce que ça va donner.
Oui, merci. On va rappeler les autres résultats aussi de ces 16e, hein, qui sont déjà passés. Hein. Tout simplement, le Maroc, ils se sont imposés au tir au but, hein, lors des tirs au but interminables, un peu avec Hakimi qui a loupé son pénalty. Hein. On a pu voir Raimi qui a eu énormément de chance, hein, avec Van de Veek qui a directement remis le ballon avec son talon dans les cages après avoir arrêté le pénalty. Oui, ce qui semble assez bizarre. Mais Ronald Koeman a démissionné de son poste après cette élimination prématurée des Pays Basques. Est-ce que pour toi c'est une contre-performance des Basques dans cette compétition, Olivier ?
C'est une surprise, ouais, c'est une surprise. Parce que, bon, après, c'est vrai qu'en 16e, il y a eu quelques belles affiches. Maroc-Pays-Bas, c'était potentiellement un quart, voire une demi-finale. Et de se rencontrer aussitôt dans la compétition, un 16e de finale, ça joue à peu de choses. Hein. Ça joue au tir au but, ça joue un talon, ça joue un poteau. Les Pays-Bas actuellement, ils sont un petit peu dans le creux de la vague.
Ouais.
Ça fait quelques compétitions, que ce soit à l'Euro comme en Coupe du Monde, où ils passent un petit peu au travers. Il y a une génération qui ils ont du mal à, je sais pas, de trouver un petit peu une ossature. Mis à part ça, le Maroc est une belle équipe. Hein. Une belle équipe, ils les ont mis en difficulté. Certes, ils passent ric-rac, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils égalisent quand même à la 91e minute. Ça va au tir au but, ça joue pile en face. Ouais. Mais voilà, c'est bon, je ne savais pas que Koeman avait démissionné. Ouais, bien souvent, quand les grosses nations comme ça sortent assez rapidement et prématurément, c'est souvent l'entraîneur qui trinque. Et donc, soit il démissionne, soit il se fait mettre dehors. Bon, c'est le cas, mais bon, il y a... Ouais, les Pays-Bas en ce moment, c'est pas... Voilà, ils sont un petit peu dans le creux de la vague. Bon, ils reviendront plus fort dans quelques compétitions.
Je l'ai dit, Koeman, ouais. comme elle n'avait pas le charisme de certains entraîneurs hollandais qui avaient quand même plus de bagage au niveau football que lui. Lui, je me souviens d'un défenseur qui était assez méchant. Qui pour moi n'a jamais été un grand entraîneur, quoi.
Il y a aussi une chose à pointer du côté des Pays-Bas, c'est que c'est une équipe qui, dans son sol, je parle vraiment aux Pays-Bas même, a fait énormément preuve d'arrogance. Il y a une déclaration de Raphaël van der Vaart qui disait qu'il avait lancé les hostilités et qui disait qu'il voyait les Pays-Bas gagner facilement 3-0 face au Maroc. Ce que je trouve absolument lunaire, parce que c'est manquer de respect au Maroc, manquer de respect au travail réalisé par la fédération marocaine pour pouvoir faire élever le football parmi les meilleures sélections mondiales. On parle pas d'un petit pousset africain, non, on parle d'une équipe qui est top 10 mondiale. C'est un grand nom du football à l'heure actuelle. Et comme on dit, hein, le karma, moi je crois fort au karma, je suis bien content de les voir sortir de cette manière, car non seulement les Pays-Bas ont fait match nul au bout des 120 minutes, mais c'est contre le cours du jeu qu'ils ont ouvert le score, à la 75e par Cody Gakpo, et l'égalisation pleine de rage d'Issa Diop, franchement, c'était plus que mérité, parce que c'est le Maroc qui a été chercher les Pays-Bas, et non les Pays-Bas qui ont arrêté de jouer. Et ça, pour le coup, c'était vraiment appréciable à voir. Et puis, pareil, on parle de la démission de Ronald Koeman. Il y a une séquence absolument lunaire que je vous recommande d'aller voir, pendant la conférence de presse, où un journaliste néerlandais l'a littéralement pris à partie de manière explicite en lui demandant en quelques mots, il lui a demandé quand est-ce que vous allez partir, quoi, quand est-ce que vous allez démissionner. Et il lui dit mais le match il vient de se terminer, laisse-moi le temps de réfléchir, on est tous encore sous le coup de l'émotion après cette élimination, laissez-moi encore temps de réfléchir, on en reparle demain, quoi. Ouais, mais bon, c'est bien beau de dire ça, mais à chaque fois vous le dites ça, donc quand est-ce que vous allez partir? Mais vraiment, la séquence, elle est lunaire.
Journalistes, en tout cas certains pseudo-même journalistes, hein, parce que tenir de tels propos sont un peu honteuses, en tout cas pour la profession, se permettent beaucoup plus maintenant d'avoir tout simplement d'intervention. Hein, Abou en est témoin, je pense, partout.
Moi, je trouve ça honteux. C'était la même chose avec la sélection nationale du Mali où Eric Schell, je crois, après son élimination. Sa défaite contre la Côte d'Ivoire, où pareil, il est pris à partie, on lui demande c'est quand que tu pars, il part, au final, ils font pas mieux derrière. Les Pays-Bas, je suis pas sûr qu'ils vont faire mieux derrière. Il y a un peu ce truc de les journalistes se permettent un peu tout maintenant en conférence de presse. J'ai pu le voir lorsque j'étais au Maroc pour couvrir la CAN, la finale, où les journalistes se permettent tout et n'importe quoi, où ils pensent qu'ils sont un peu les avocats, ils sont les procureurs du pays, et c'est à eux qu'on doit rendre justice, enfin en tout cas c'est à eux qu'on doit rendre des comptes pour la nation entière. Alors non, c'est Coman, après il fait pas du bon boulot, mais moi il y a une stat folle sur les Pays-Bas, je crois que c'est le Pays-Bas est invaincu en Coupe du Monde depuis 2006. Les gars n'ont pas perdu dans le jeu depuis 23 matchs. Je comprends pas.
Waouh, la stat est incroyable.
Je comprends pas.
On s'en rappelle, en 2022, ils sont sortis face à l'Argentine après avoir été menés 2-0. Ils sont revenus à 2-2 en même pas 10 minutes. Et on a pu voir, ils l'ont tenu tête, mais ça s'est joué au tir au but.
Et sinon, la belle image de la soirée, c'est Cody Gakpo quand même qui vient marquer ce but et qui fond en larmes derrière lui qui a perdu son enfant cette semaine. Donc c'était un match avec beaucoup de choses émotionnellement. Issa Diop aussi, qui est beaucoup décrié pour avoir toujours voulu jouer avec l'équipe de France, qui finalement fait le choix du Maroc, qui était un peu pris à partie par certains, en tout cas supporters marocains, qui lui reprochaient ce choix de dernière minute. Lui qui est là, Naïf Aguerd qui est pas là, qui est le leader naturel de cette équipe habituellement, et Issa Diop qui vient marquer de la tête. Donc c'était un match avec beaucoup de choses, et c'est très bien pour le Maroc et pour l'Afrique surtout, que cette équipe se hisse en quart de finale, et je pense qu'il y a la place contre le Canada.
Oui, en tout cas, ça sera pas un match facile. Hein. Le Canada aussi qui se sont imposés dans les ultimes secondes, hein, tout simplement un petit but à zéro. Et aussi, je voulais parler aussi de l'entraîneur parce qu'il y a eu aussi la Corée du Sud, l'entraîneur Hong Myung-bo, qui a été pris à partie avec des menaces de mort. Lui, c'est une caste au-dessus, oui. Ça a été avec des menaces de mort et qui a été attendu à l'aéroport, hein, par de nombreux fans, hein, qui veulent qu'il démissionne de son poste. Il a démissionné d'ailleurs de son poste, hein, parce que même le président de la République a pris la parole et a dit qu'il allait ouvrir une enquête sur toute toute la fédération coréenne et que le coach a démissionné. Ils ont dit qu'il l'a qualifié d'incompétent, de quelqu'un qui n'était pas qualifié pour ce poste-là. Et en tout cas, il y a des vraies prises qui ont été prises à son égard. Hein, de la sécurité 24 heures sur 24, hein, parce qu'il a reçu des vraies menaces de mort. Même à l'aéroport, il a été pris à partie devant ses joueurs. Hein. Lee Kang-in était là d'ailleurs. En tout cas, cette affaire prend énormément d'ampleur.
Mais lui, ça va plus loin. C'est parce que les supporters ne lui demandent pas juste de ne plus entraîner l'équipe de Corée du Sud, on lui demande de ne plus entraîner aucune équipe en Corée.
Oui.
Ça va jusque-là.
On lui dit de revenir au pays carrément.
On lui dit de ne prendre aucun club et d'arrêter sa carrière d'entraîneur. Donc bon, je ne savais pas que les Coréens aussi étaient. Parce que souvent, on parle de. Non, mais c'est vrai, on parle du folklore de l'Amérique du Sud, un peu de l'Afrique aussi, où les gens vivent par le football, mais visiblement en Corée aussi. Ça y va, donc bon, on en rigole, mais c'est triste
pour
ce sélectionneur-là. On espère que ça ira pour la suite. C'est dur d'avoir tout son pays contre soi.
C'est, là, pour le coup, c'est carrément ne reviens plus au pays. C'est même pas n'entraîne plus, c'est ne reviens plus au pays. Tu es persona non grata, va te trouver un autre pays, je ne sais pas, refais ta vie, mais on veut plus de toi ici, on veut plus que tu parles du football de la Corée du Sud. Mais non, mais on en rigole, mais vraiment, l'info est absolument lunaire, quoi. On parle de football, même si c'est une Coupe du Monde, c'est l'un des plus grands événements sportifs de la planète. À un moment donné, il faut savoir garder ses nerfs, quoi. C'est toujours frustrant, c'est toujours triste, une élimination en Coupe du Monde, mais il faut savoir raison garder. Ça n'est que du foot dans ces conditions.
En sachant qu'il n'y a pas eu de grandes désillusions, avec ce qu'il proposait, même si c'était très faible, c'était très difficile de mieux faire. Hein. Mais on a pu voir les chaînes télé, en tout cas, flouter son visage lors de trucs. Oui, comme un criminel. Hein, oui.
C'est un criminel qui est revenu. C'est pas un sélectionneur.
Oui, ils ont flouté son visage lors de sa conférence de presse. En tout cas, c'était vraiment pour vous dire que ça commence à prendre de l'ampleur. Mais voilà, ça n'est que du football.
Oui,
et il faut rester concentré.
On a bien vu un joueur colombien qui avait raté un but.
Oui.
Ah oui.
Qui avait marqué un but dans son camp.
Qui a été abattu.
Oui, il avait marqué un but dans son camp.
Pablo Escobar.
Oui, par Pablo Escobar.
Apparemment, oui.
C'est hallucinant, comme histoire.
En tout cas, voilà, hein, toujours beaucoup d'extra sportifs autour du football. Hein, et on rappelle encore les stats de Kylian Mbappé, hein, toutes compétitions confondues. Hein, il est à 431 buts et 155 passes décisives, messieurs, à seulement 27 ans.
Mais où est-ce qu'il va s'arrêter?
Les statistiques de folie.
Ah oui, c'est... où est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'on a déjà eu un joueur de cet acabit en équipe de France?
Non.
Qui est peut-être Platini.
Peut-être Platini, mais encore.
Et en charisme, peut-être Zidane.
Allez, oui, ouais, en charisme, Zidane, ouais.
Peut-être, oui.
Mais waouh.
En tout cas, je pense que il est au milieu de sa carrière. Hein. Je pense que quand il aura terminé, je pense qu'il va clôturer le débat. Surtout s'il va chercher deux voire trois coupes du monde.
Ah oui, oui.
Je pense que le débat.
Ah bah, s'il est double champion du monde, je pense que le débat il sera enterré.
C'est délicat aussi de comparer les générations.
Oui, bien sûr.
Platini sur une année civile n'avait pas autant de matchs. Il y avait pas autant de matchs.
Ah oui, tout à fait.
Ne serait-ce qu'ici en Coupe du Monde, on est à 48 clubs. Quand Platini fait la Coupe du Monde en 86, tu sors des poules, t'es directement en 8e ou en quart. Et sur une année civile, l'équipe de France joue énormément de matchs. On doit être à 10-12 matchs sur une année civile.
Platini
en faisait peut-être 4 ou 6. Mais mis à part ça, Platini restera quand même un nom. Un grand monsieur du football français et Kylian est de même. Et...
Ah, je pense que c'est Platini, Zouzou, Mbappé. Hein. C'est...
Oui, le podium est là.
Ouais,
hein.
Ouais.
Après, on les classe comme on veut.
Mais... Dans l'ordre de préférence.
Zidane, Platini.
N'oubliez pas Cantona dans le débat. Hein. Parce qu'on a fait un joueur par décennie. N'oubliez pas Eric Cantona dans le débat.
Ouais. Tu t'es un peu chauffé là quand même.
Bon, il est quand même sœur, hein, excuse-moi. Oui. C'est pas tous les Français qui ont cette distinction. Oui, ouais, bon, quand même.
Là, on parle de gens sérieux. On parle de l'Euro 84, Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2018. Tu nous parles de Cantona.
Ouais, mais Cantona, dans les 90, c'était quelqu'un.
En équipe de France, pas trop ça non plus.
Ouais, on va poursuivre, hein, on va bientôt conclure, mais on rappelle que le Brésil sont qualifiés face au Japon, hein, et le Brésil tout simplement qui vont affronter la Norvège, messieurs. Olivier ou Guy, qui est-ce que vous voyez favori pour ce match-là?
Brésil-Norvège?
Oui.
Norvège.
Oh
j'ai le même pronostic.
Ah oui, directement en plus, hein, aussi froidement, c'est l'avis de Guy.
Haaland va leur faire mal.
Haaland va leur faire mal, en tout cas. Olivier, t'es pas du même avis?
Ça sera un match serré. Sur la forme actuelle, oui, on pourrait miser sur la Norvège, mais avec le métier, l'expérience,
c'est vrai.
Un Marquinhos qui tient la baraque derrière, qui est capable sur 90.
Vinicius, depuis le début de la compétition, il est en forme.
On a vu, ils étaient pas au top contre le Japon. Mmh. Ils étaient menés à la mi-temps. Ils ont serré les dents. Ils ont laissé passer l'orage. Et puis
en deuxième, ils ont déroulé.
Voilà. Et ben là, au métier, à l'expérience, ils ont aussi Ancelotti sur le banc, qui est un grand monsieur. Et je pense que du 1-0, du 2-1, ça va jouer à des petits points de détail, mais au métier, le Brésil.
Je suis d'accord. Je pense qu'Ancelotti, c'est la différence entre les deux sélections. Et à l'expérience, je pense que le Brésil s'imposera légèrement, mais je pense que ce sera pour le Brésil cette fois-ci. Et la Norvège, de toute façon, le tournoi est réussi.
Ils ont
fait tourner contre la France pour se préparer contre la Côte d'Ivoire. Paris réussi, Côte d'Ivoire éliminée. On rentre à la maison, on sera accueillis comme des héros comparés aux sélectionneurs.
Justement, je voyais la Côte d'Ivoire gagner, là.
Oui, moi aussi.
Et le fait que les Norvégiens aient battu les Ivoiriens, qui avaient une équipe super organisée.
Ouais.
Pour ça que je me dis que les Norvégiens peuvent embêter Brésil.
Je pense qu'à l'expérience, comme disait Olivier, le Brésil passera, mais ça va être un match
bien plus serré qu'on le pense.
Si ça va aux prolongations, c'est pas quelque chose qui m'étonnerait plus que ça.
Pareil. Cela dit, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter au niveau du Brésil, c'est quand même toute cette pression qu'ils ont, cette pression. C'est tout un pays qui attend de revoir sa sélection sur la plus haute marche de la planète. Ça fait quand même depuis pas loin de 20 ans, si j'ai pas de bêtises, qu'on n'a pas vu le Brésil aller dans le dernier carré, mais aller chercher les meilleures places en Coupe du Monde. Allez, peut-être 2014 où ils se font étrier par l'Allemagne en demi-finale, mais même au-delà de ça, ça fait quand même très longtemps que le Brésil attend de revoir sa sélection parmi les grands noms. Il y a un déclassement qui a été fait et moi, il y a quelque chose, justement, je viens de parler de 2014, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en parallèle. En 2014, on attendait de Neymar qu'il fasse, entre guillemets, le boulot, qu'il porte l'équipe quasiment à lui seul sur le plan offensif. Là, sur cette Coupe du Monde, ce rôle, il a été attribué à Vinicius.
Oui.
Et là-dessus, faut faire attention, parce que si Vinicius, par malheur, rate son match, derrière, c'est très compliqué sur le plan mental à garder toute la concentration pour tenir la cage inviolée, pour ne pas prendre de but. Et c'est là-dessus auquel j'ai vraiment peur pour le Brésil, parce qu'il y a une telle pression sur les joueurs. Il faut voir à quel point ils ont célébré la victoire.
En 2018, il y a toujours eu plus de pression que maintenant.
Oui, bien sûr.
Sauf qu'il n'y a absolument pas de pression. Justement, ils ont mis la pression pour que Neymar soit pris. Une fois que Neymar a été pris, pour moi, ça a déjà été une victoire pour eux. Et même si aujourd'hui on sait qu'il a forcément pas le rythme encore pour pouvoir disputer ces matchs là je pense que la pression côté brésilienne n'est moindre que les autres fois où ils ont dû disputer la Coupe du Monde. Je pense que c'est les seules fois où on ne les cite pas dans les favoris. On les cite à chaque fois dans les favoris. Jusqu'en 2022, on les citait encore dans les favoris, et là on ne les cite plus dans les favoris.
Donc c'est pour ça que la sélection a beaucoup moins de
pression quand même.
La sélection a quand même un niveau un cran en dessous, c'est pour ça qu'on ne parle plus d'eux comme des favoris. Et puis il y a aussi une chose à dire. Dire que le Brésil, enfin, ne pose pas de pression. Non, on parle du pays du football. Il y aura toujours la pression. Faut voir comment est-ce qu'ils ont célébré avec un soulagement majeur leur victoire contre le Japon, parce qu'ils avaient été quand même malmenés sur ce match-là.
Juste en première mi-temps et encore.
Ouais, mais quand même,
ils ont eu beaucoup plus d'occasions.
Ils ont bien mieux fini le match.
En deuxième mi-temps, en tout cas, il n'y a pas eu de match. Ils ont marché dessus en deuxième mi-temps.
Mais c'est en fait ce côté de pression où vraiment j'ai peur pour eux qu'ils se fassent absorber par la pression, parce que c'est une équipe qu'on attend. Qu'on attend depuis longtemps de retour parmi les meilleures équipes du monde, et ça fait un moment que ça dure. Après, pour Neymar, soyons honnêtes, Carlo Ancelotti s'est surtout acheté une paix sociale. J'aurais préféré voir un João Pedro par exemple à sa place, qui aurait été à mon sens plus utile au sein de l'attaque brésilienne, mais bon, ça on a déjà fait le débat, je pense, par le passé.
Exactement, oui, on a déjà fait le débat, on va pas rentrer dedans, voilà. Il reste quelques petites minutes, hein. Le Mexique qui va affronter l'Équateur dans 1h30, messieurs, vos favoris?
Le match, sauf erreur de ma part, il se joue au Stade Aztèque. Le Mexique, chez lui, c'est dur d'aller gagner là-bas quand même. Ah oui, c'est un match entre deux Sud-Américains.
Bon, c'est Estadio Banorte.
Ah, donc c'est pas...
C'est Estadio Banorte à... Oui, c'est au Mexique.
Ah, c'est au Mexique. C'est au Mexique. Ah, bon, c'est pas Aztec, mais
oui,
bon, c'est au Mexique.
Oui, c'est ça, le
Estadio Aztequia, ouais.
Tout un peuple est derrière le Mexique. Je les vois pas perdre chez eux. Bon, c'est un match sud-américain. Ça va mettre des coups. Ça va être... voilà, on sait, hein, c'est deux... ça va être un peu chaud. Je serais même pas étonné qu'il y ait...
Un petit carton rouge.
Ouais, il n'y a pas eu tant de cartons rouges que ça, finalement.
Bah, la première journée entre le Mexique et l'Afrique du Sud, il y en a eu trois.
Mais après, il n'y a pas eu grand-chose. Je ne serais pas étonné que, voilà, que bon, le Mexique gagnera chez lui pour moi et ça peut être un petit peu chaud entre les deux équipes.
Sans jeu de mots, je pense que ça va être un match pimenté.
Là, en tout cas, c'est sûr que ça va être pimenté.
Ça va être pimenté, oui.
L'Angleterre face au Congo demain.
Ouais, les Anglais, c'est vrai, je m'arrive pas. Bravo au Congo hein, pour le parcours jusque-là, je disais.
Non, mais tu les enterres déjà.
Non, mais je disais hier dans l'émission, Sébastien Desabre, mission accomplie, qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour les 16e de finale. Mais je pense que les Anglais vont s'imposer.
C'est pour ça que j'apprécie Abou, parce que quand tu l'entends parler, tu sens que c'est sérieux, mais il y a toujours un petit ton pince sans rire dans ses analyses. Quoi.
Belgique-Sénégal, du coup
Belgique-Sénégal, pour le coup, moi je vois bien le Sénégal faire quelque chose. Parce que,
moi aussi je les vois faire quelque chose, rentrer chez eux.
Oh, ah oui, carrément, tu vois la Belgique battre le Sénégal après ce qu'ils ont montré.
Mais les deux équipes sont nulles.
Mais oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Oui, mais entre deux nuls, il y en a un qui paye son sélectionneur, l'autre qui paye pas. Il y en a un qui a moins de problèmes internes que l'autre. Donc je pense que.
Même malgré ça, et bah, tu sais quoi, même malgré ça, je pense que le Sénégal va jouer sur l'orgueil.
J'ai
en
l'impression
disant,
que le problème du Sénégal est beaucoup plus profond que le terrain.
Ah bah bien sûr.
Et par compassion. Enfin, par. Amour, peut-être, ou nostalgie pour Rudy Garcia. J'espère qu'il gagnera.
Ouais. Ah ouais, ça sent là, c'est Rudy Garcia de l'OM là, qui parle.
Voilà.
Non, moi je vois bien le Sénégal faire quelque chose face à la Belgique.
Face à la Belgique. Et États-Unis-Bosnie, messieurs, pour le dernier match du lendemain. Hein, États-Unis qui jouent à domicile, hein, qui vont jouer face à la Bosnie.
Je pense que les Américains vont gagner.
Oui.
Pareil. Pareil, il n'y a même pas besoin de dire
maison
plus,
aussi,
à la maison.
Ça sort en quart, les États-Unis.
1-0, but de Timothée Ouéa.
Voilà.
Ah, bah, ah d'accord, carrément.
Ça va être difficile puisqu'il ne joue pas trop, mais.
Bah, tu veux, il va rentrer à la 70e minute, marquer le but de la victoire, et il sera titulaire le match d'après.
Ah ouais, pas mal le prono. Moi je voyais plutôt.
Après, les Marseillais sont. J'ai vu Timber hier. J'ai l'impression que c'est compliqué.
C'est dur quand t'es Marseillais.
J'ai même tes pénalties, tu les rates, les gars. Ça a l'air quand même compliqué.
Ah, c'est très dur d'être Marseillais.
Il le rate bien en plus.
Ah oui, dans une grande largeur. Il n'y a rien à garder.
On souhaite plus de réussite à Amine Gouiri avec l'Algérie.
Eux aussi qui vont disputer leur 8e. Hein. On va y revenir en tout
cas.
Leur 16e, pardon. J'avais l'habitude des 8e, mais là c'est.
Ah, mais... Non, mais c'est vrai, c'est nouveau pour nous tous hein, d'avoir les 16e de finale.
On a décidé autrement.
En Coupe du Monde, oui, c'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, on arrive au bout de cette émission hein, et on va se quitter, on va se donner rendez-vous samedi prochain pour le match dès l'équipe de France qui opposera face au Paraguay. Merci à Olivier, merci à Guy, merci à Abou, merci à Stéphane,
merci à, toi,
merci à Léo à la technique, hein, merci à vous nos chers auditeurs et auditrices et on se dit à samedi pour du football, encore du football, toujours du football. Nous nous quittons sur Tamsir, coup du marteau.
Jour de fête.
C'est quoi? Et vous à lui seulement. Tu fais ça pourquoi? Y'a un coup de guérilla. Hommage à toi, président Douxaga.
Venez, venez danser.
Tu fais comme moi.
La carte va le soir, l'Afrique ça va chauffer.
Y'a aussi le pain.
On fait ça, puis on t'envole. Ici c'est la zone de gare.
Tous les drapeaux sont levés. Africa, on est les tiens. On est toujours debout, on n'est jamais fait.
Maggie Dollar de Los Angeles. Junior Dollar.
Chuka
Marco Diallo.
fatigué, faut jouer. Nous on est là.
Qui hey, s'abalève, fous du matos.
Et puis Farah Nandri.
على بلد البيا